On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures. Jetée dans la mer du temps.
Ensemble, nous démarrons l'émission Capsule temporelle.
Donc, je suis avec Pierre-Yves et qui va nous expliquer un petit peu sa démarche. Allez, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour. Alors, présentation. Bon, j'aime pas ça en fait. C'est pas facile de répondre à cette question « je suis, qui je suis ?» dans la société courante, on se présente par le métier. Donc je peux commencer par ça en fait. J'ai fait 20 ans de bureau d'études en mécanique. À la suite d'un combo magique, dépression, divorce, licenciement, je suis devenu paysagiste. Et ce combo magique aussi m'a amené à démarrer un chemin de développement personnel où j'ai découvert plein de choses. Et il y a quelques années, j'ai découvert les cercles d'hommes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Alors, explique-nous un petit peu, cercle d'hommes. Enfin, t'as rencontré des gens qui faisaient ça ou comment ça s'est passé?
Alors, dans le milieu développement personnel, j'étais très souvent... le seul homme, voire deux sur un groupe de 20, quoi. Très faible pourcentage d'hommes. J'ai appris énormément de choses. Et ça me convenait bien, d'ailleurs, d'être dans un milieu féminin, parce que mon enfance s'est passée dans un milieu très féminin. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré... Comment ça s'est passé ? Une de mes enseignantes sur le savoir des Amérindiens m'a parlé d'un groupe qui organisait une quête de vision. Et donc j'ai pris contact avec ce groupe-là et c'était un groupe d'hommes. J'ai fait un stage qui a révolutionné ma vie en fait. Hein. Ça s'appelait le lien à soi. On a fait un travail d'écriture intuitive, on va dire. Le fil rouge du stage, c'était ça. On a passé beaucoup de temps en cercle et exploré plein de pistes autour de cette question qui je suis. Et donc ce fil rouge d'écriture d'un texte qui est vraiment fondateur pour moi en fait dans mon activité de cercle d'hommes. Et donc dans ce cercle d'hommes, j'ai trouvé une ambiance où il y avait le cœur ouvert. Je pouvais parler avec mon cœur ouvert, parce qu'il n'y a que ça que je sais vraiment bien faire. Et avoir en face des semblables qui me comprennent, ou pas d'ailleurs, mais des semblables. Et ça, ça a vraiment été important pour moi. On va dire dans les autres cercles... mixte où j'étais le seul homme, j'ai appris plein de choses, mais il y avait toujours quelque chose où je me reconnaissais pas complètement. Et là, en cercle d'hommes, oui, on est différent, mais c'est quand même des pareils que moi. Et ça a vraiment été fort, quoi.
Finalement, pourquoi, le côté, parce qu'on parle du genre, hein, on est bien d'accord. Donc, se rencontrer en tant qu'homme, avec que des hommes, quelle est vraiment la différence notable que tu arrives à ressentir par rapport à ce que ton expérience précédente qui était mixte? Quel est vraiment le truc qui te fait dire ouais, non, c'est vraiment. Toi, c'est fort, mais c'est fort en quoi
en fait, je vais parler d'un truc que dans les cercles mixtes, ça parle vraiment du moi intime, en fait. Hein. Mais il y avait toujours quelque chose de la
Tu veux dire
séduction, voilà.
la
Il y avait
séduction?
toujours quelque chose de l'ordre de la séduction au début. J'arrive dans un groupe féminin. Ma façon d'être un homme à l'époque, la séduction était quelque chose de vraiment important. Ça parle de ma maturité que j'avais à l'époque. Hein. Je ne vais pas refaire toute mon histoire personnelle, mais c'était comme ça. Donc, il y avait systématiquement quelque chose comme ça au début qui faussait un peu le jeu, en fait. Et puis après, bah, on rentre dans la relation, on rentre dans l'exercice, on rentre dans tout ça, et ce côté séduction disparaît. Mais n'empêche que y avait une teinte comme ça, quoi, qui m'empêchait d'être tout à fait moi. Alors qu'avec des bonhommes, bah, je ne suis pas homosexuel, donc j'ai aucun truc de ce genre-là, quoi.
Donc en fait, le fait d'être entre hommes te permet de sortir de cette espèce d'ambiguïté qui peut être mise en place par la séduction, c'est ça? Mais en même temps, tu disais que finalement, au bout d'un moment, que tu rentrais dans une relation, pas dans les groupes mixtes, hein, je parle, tu rentres en relation et du coup, après, ça s'estompe peut-être cet effet de séduction. Mais quand même, il restait un petit truc qui fait que c'était gênant, c'est ça?
Je me rappelle d'une séance de constellation familiale où on était deux hommes, je crois, sur ouais, une vingtaine de personnes. Et forcément, les problématiques étaient autour du féminin. La lignée de femmes, voilà, la lignée de femmes. Alors, j'ai joué évidemment des rôles d'hommes dans cette constellation, mais j'étais au service des problématiques des femmes en face. Donc voilà, j'étais au service des femmes et pas pleinement moi-même avec mes problématiques d'hommes, tout simplement. Tiens, par exemple, le sujet de la colère, il n'était jamais sorti avant les cercles d'hommes. Parce que c'est un lieu commun en fait de dire que les hommes sont colériques. C'est une grosse généralité pourrie, mais c'est quand même un truc qui est quand même, en gros, les hommes sont colériques quoi, plus facilement colériques. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, j'avais jamais abordé ce sujet-là avec des femmes. Et en cercle d'hommes, ça arrive et ça arrive souvent en fait. Et ça m'a conduit à m'interroger sur moi-même. Où elle est ma colère quoi? Et donc ça, c'est un vrai, voilà, c'est une vraie découverte de moi-même que j'ai pas pu faire avec des femmes.
Mais dans les cercles avec les femmes, le sujet de la colère est jamais sorti?
Non, le sujet n'est jamais sorti.
Enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire de ta part, mais des femmes, est-ce qu'elles sortent ça, en fait? Tu vois? Le sujet de la colère, est-ce qu'elles l'ont aussi? Enfin, parce que c'est comme si tu me disais qu'en fait, les femmes, ça, c'était pas le sujet, quoi. Alors que bon, on imagine qu'un être humain est un être humain et que elles peuvent être en colère aussi, en fait. Non, tu l'as pas ressenti comme ça?
Dans toutes mes expériences de développement personnel, c'était des cercles de travail. Donc il y avait des thèmes en fait. Et c'était pas forcément la colère le thème central. Probablement que la colère, elle doit sortir en cercle de femmes. Probablement, mais j'y suis pas. C'est les cercles de femmes. Alors que les cercles d'hommes, c'est pas des cercles thérapeutiques. En tout cas, moi, ce que je propose. Je propose pas des cercles thérapeutiques. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Je suis facilitateur, mais je suis au même niveau que tout le monde. J'ai juste un rôle différent. Je dépose ma parole en cercle d'hommes de la même façon que tout le monde. Donc, ce qui se passe en cercle de femmes, je suppose que la colère, elle sort aussi.
Alors je vais poser deux questions. Un, est-ce que tu peux développer le côté facilitateur? Parce que c'est un terme que je vois sortir en ce moment, mais je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Déjà ça. Et puis la deuxième, parce que en fait, tu me parles que les cercles auxquels tu as participé avant, c'était vraiment des cercles thérapeutiques. Donc il y a vraiment une différence notable, hein, c'est ça? Tu peux développer un peu?
Oui, il y a une différence notable. C'est pour ça qu'on utilise ce terme de facilitateur. Je suis pas un guide, je suis pas un sachant face à des apprenants, je suis un humain, un point c'est tout. Et donc, mon job, bah, c'est d'ouvrir ma maison en fait, d'ouvrir mon salon et de proposer un cadre sécurisant. C'est ça le job du facilitateur. Le cadre sécurisant, c'est ce qui se dit en cercle, sortira pas du cercle. On prend un engagement de confidentialité. C'est vraiment hyper important. Ça, c'est vraiment le truc central, quoi. D'ailleurs, au début, j'ai fait une boulette en parlant d'une conversation que j'avais eue hors cercle. Donc, a priori, en dehors du cercle de confidentialité, quoi. J'avais relaté une conversation en changeant les prénoms, vraiment en prenant tout un tas de précautions sur la confidentialité. Et la personne concernée, évidemment, s'est rendu compte que cette conversation était publique, et ça a fait un gros clash. Ça, c'est vraiment une boulette de débutant. Et donc voilà, c'est pour dire que la confidentialité, c'est le truc hyper important. Tout ce qui se dit en cercle, tout ce qui gravite autour du cercle, ça reste dans le cercle, quoi. Donc c'est une partie de mon boulot de facilitateur, de mon rôle de facilitateur, amener un cadre sécurisant par la confidentialité. Et puis, j'ai une expérience qui me permet de rappeler à l'ordre un petit peu quand il y a des façons de s'exprimer, je vais dire inadaptées. Une des autres règles importantes du cercle, c'est de parler de soi, parler en jeu. C'est un peu un tic de langage qu'on rencontre souvent. Pour parler de soi, on dit tu ou on. Et c'est un tic de langage, parce qu'au fond de soi, la personne qui fait ça, souvent elle parle d'elle. Elle le sait, mais juste le tic de langage. Sauf que la personne qui reçoit cette parole, elle peut le prendre pour elle. Quand je raconte mes histoires de montagne, si je dis, quand tu grimpes sur un sommet en plein hiver, il fait froid, tu te cailles, ça te fait chier en fait. Hein. Et bah, si j'ai en face de moi un alpiniste aguerri, bah, il va me dire, mais non, qu'est-ce que tu me racontes là? J'adore aller grimper en hiver, c'est trop bien quoi. Non, moi en hiver, quand je grimpe dans une face nord qui fait froid, qui a du vent, bah, en fait, ça me fait chier, j'ai pas envie d'y aller quoi. Et là, il y a plus de... On peut que être d'accord quoi, j'ai parlé de moi. Et du coup, ça apaise vachement la conversation, enfin la parole. Donc voilà, ça c'est un truc important du cercle, c'est parler de soi, parler en jeu. Et donc, avec mon expérience, eh ben, si quelqu'un dérive un petit peu, je fais juste un petit rappel à l'ordre, tout simple, quoi. J'ai fait un petit carton rouge.
Ah oui.
Comme au foot, où il y a marqué dessus « on est un con ». Et donc, pendant le cercle, ça m'évite d'interrompre la parole, et puis juste, je sors le carton rouge, quoi.
Okay.
Voilà, truc rigolo, quoi. Ça, c'est les deux règles principales. Après, je peux parler aussi du miroitement de l'âme. C'est une pratique qu'on fait qui n'est pas en usage dans tous les cercles. Il s'agit de renvoyer à la personne qui vient de parler quelque chose de lumineux de ce qu'elle a dit. Quand on est en cercle, on raconte souvent les merdes qu'on a, les histoires tristes, etc. Et en même temps, la personne qui parle s'en rend pas compte, mais elle se débat, elle fait des belles actions au milieu de toute cette merde. Et de lui dire ça, eh ben ça fait du bien. Tu te rends compte, tu viens de divorcer, t'es au 36e dessous, mais en fait tu t'occupes de tes gamins comme un vrai papa aimant, et ah ouais, je fais ça, trop bien. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'est la pratique du miroitement, c'est un truc que j'ai appris avec la sagesse du chêne à Saillant. J'appellerai pas ça une formation. C'est avec eux que j'ai découvert les cercles d'hommes, que j'ai fait des stages, des quêtes de vision, des choses comme ça.
Donc.
Assaillant. Mais ils ont déménagé, ils sont en Dordogne maintenant.
Ah.
Voilà. Et on fait des cercles en ligne. C'est un petit peu moins facile de garder le cadre quand on est en ligne avec des débutants. Mais en fait, maintenant, on se connaît tous, on est tous habitués, donc ça roule, quoi. Oui, moi, je fais ça sur Talencieux. Ça correspond à mon besoin personnel aussi d'avoir du lien de cœur que c'est pas facile d'avoir dans la société courante. Et j'étais en cercle hier soir, justement, j'ai fait une formation de facilitation avec Camille Sfez, je ne sais pas si tu connais, une psychologue de Bordeaux qui a écrit un livre assez connu qui s'appelle La puissance du féminin, qui facilite des cercles depuis de très nombreuses années. C'est quasiment elle qui a amené les tentes rouges, les cercles féminins en France. Bref, grosse expérience. Donc j'étais en formation avec elle hier soir, en cercle avec elle. Et donc on a parlé de la communication. Globalement, je suis sur Facebook. Je communique par Facebook. J'annonce les cercles par Facebook. Je me suis aussi appuyé sur un site de rencontre amicale qui s'appelle TMS. C'est une ambiance différente, quoi. Mais tout ça, c'est pas très efficace. Là, je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je fasse de la communication ciblée sur les SMS, sur les adresses perso, quoi. Les adresses mail perso. Voilà. Mais les gars, c'est difficile à capter, hein. Les cercles de femmes, c'est quand même connu.
C'est plus courant.
C'est courant. Hier soir, on était deux bonhommes sur 15, quoi. Toutes les femmes qui commencent leur cercle, elles ont toutes 5, 10, 15, 20, 15 personnes, ouais. Nous, les deux gars, on galère un peu à recruter, quoi.
Mais tu veux rester quand même ardéchois ou tu peux te délocaliser un peu? Comment ça?
Alors, une de mes propositions, c'est les rando-cercles. C'est-à-dire qu'on va se balader la journée, le programme c'est à peu près 10 km pour que ça soit accessible à tout le monde, et on fait un cercle de parole en milieu de balade. Voilà. Et donc, géographiquement, en hiver c'est plutôt le Pila, et puis en été on va dans le Vercors. Ouais.
Ah ok.
C'est, donc ça reste à une heure à peu près de route de chez moi maximum, quoi. Voilà.
Ok.
À une heure de route d'Annonay. Donc je passe par Valence, je passe par Romans, Chabeuil, etc. Alors je me suis beaucoup posé de questions sur l'argent parce que les cercles de parole, ça correspond à un besoin personnel. Du coup, il n'y a pas vraiment de justification à faire payer. Si je me fais plaisir, en gros, pourquoi est-ce que je ferais payer? Et puis je me suis rendu compte que tenir un cadre, c'est de l'énergie. C'est un savoir-faire. J'ouvre ma maison, j'offre le goûter, la tisane, etc. Bref, il y a de l'énergie que je mets en jeu. Et puis, tiens, la com aussi. Toute la com que je fais, c'est de l'énergie. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que je retrouve un équilibre à ce sujet-là. Donc, je propose les soirées cercles à 15 euros et les randos à 30 euros. Sachant que c'est grosso modo moitié moins cher que ce qui se pratique, que ce que les professionnels pratiquent.
Alors là, ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'il y a des professionnels de facilitateurs de cercles.
Alors effectivement, tout à l'heure, je parlais du fait que je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un guide. Il y a beaucoup de gens qui sont des thérapeutes. Et la pratique de cercle rentre dans leur cadre professionnel. Ils ont besoin de manger et c'est bien normal qu'ils fassent payer leurs heures. Justement, là il y a à boire et à manger, je dirais. Il y a des gens comme Camille Sfez qui animent vraiment des cercles de parole où elle quitte son habit de thérapeute et elle se met au même niveau que tout le monde. Alors évidemment qu'elle est, thérapeute dans l'âme. Donc elle pense à des choses que tout le monde, à quoi tout le monde ne pense pas, mais elle se met au même niveau que tout le monde. Et puis, il peut y avoir des cercles qui s'appellent aussi cercles de parole, et qui sont en réalité des cercles thérapeutiques. J'en connais plein, où le facilitateur prend un peu le lead, propose des exercices, propose des choses. Pas du tout la même chose. Moi, je suis vraiment pas en capacité de proposer du travail psychologique, en fait, parce que on parle quand même de notre intime qu'il y a dans la tête. En gros, tirer les vers du nez de quelqu'un qui a des grosses blessures, c'est s'exposer à des réactions psychiatriques, en fait, lourdes. Et ça, je suis absolument pas câblé pour gérer ça, quoi. Donc, dans mes cercles, on parle de ce qu'on a envie de parler, de ce qu'on a besoin de parler, mais pas plus, quoi. Je demande pas plus.
Et donc, en fait, quand la personne parle, est-ce que, du coup, les autres intervenants peuvent réagir? Ou c'est juste de l'écoute de chacun sans réaction? Ou parce que tu m'as parlé du miroitement?
Alors, le cercle de parole dans la tradition amérindienne, c'est vraiment qu'un cercle de parole sans interaction. Une des consignes, une des règles, c'est de prendre la parole comme si j'étais le premier à parler. Même si on est dit, c'est que je parle en huitième position, je parle comme si j'étais le premier, je rebondis pas sur ce qui a été déposé, je reprends pas un thème qui a été dit, etc. Je me compare pas à la personne, je suis moi-même, un point c'est tout. Ma parole est posée au milieu du cercle, et quand j'ai fini de parler, tout le monde acquiesce avec un petit mot, un merci, ou il y a des tas de choses qui existent, et c'est tout. Ça, c'est la tradition. La pratique du miroitement dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement une petite interaction qui est donc pas dans la tradition, mais qui fait tellement du bien, quoi. Voilà. Et il faut simplement faire attention à pas tomber dans l'écueil de la discussion de comptoir, parce qu'après ça tourne vite, on va dire à la foire d'empoigne. On risque de sortir du cœur et de monter dans la tête, dans le cerveau. Et c'est plus l'objet du cercle de parole.
Donc ça veut dire que dans un cercle de parole, on ne se pose pas de questions, par exemple?
Non. Non, non, on ne se pose pas de questions les uns aux autres. Dans un cercle thérapeutique, il peut y avoir le thérapeute qui pose une question pour faire évoluer la conversation. Mais dans un cercle de parole, on ne se pose pas de questions les uns aux autres. J'ai un copain qui aussi, à ses débuts, avait tendance à faire ça. Et puis s'est rendu compte que ça coinçait un petit peu dans le groupe. Et lui, ce qu'il a mis en place, c'est que quand la parole a tourné, que ça a fait un tour, on peut revenir sur quelque chose. Est-ce que tu es OK qu'on parle à bâton rompu de ce sujet-là? Et là, on est à la frontière avec le cercle thérapeutique ou avec la discussion de comptoir, comme on veut. Mais j'ai utilisé l'expression « à bâton rompu » parce qu'en fait, pendant le cercle, on utilise un bâton de parole. La personne qui tient le bâton de parole, elle a la parole, personne ne l'interrompt. Et tant qu'elle a le bâton, même si elle est silencieuse, personne n'interrompt. Et donc l'expression « à bâton rompu », ça parle de ce qui se passe autour de la table, au comptoir, etc. Quelque chose de plus fluide, de plus... mais aussi qui est moins en lien avec le cœur.
Est-ce que c'est forcément, j'imagine, un cercle, hein, et donc chacun se passe le bâton, c'est ça? Ou c'est à la demande, en fait, que le bâton se passe? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, par exemple, ça peut être tout à fait envisageable que quelqu'un n'ait rien à dire?
Dans la forme traditionnelle, on se met en cercle. L'idée, c'est que tout le monde soit équivalent. Il n'y a pas de position dominante. Après, sur la circulation du bâton, ça c'est un peu un choix, je ne connais pas la tradition. Ça peut être le bâton qui tourne de manière régulière, on passe à son voisin de gauche. Moi ce que je pratique, c'est que quand la parole est déposée, le bâton revient au centre et la personne qui veut continuer prend le bâton et dépose sa parole ensuite. En fonction du nombre du groupe, du nombre de personnes dans le groupe, ça présente des avantages, quoi. Si la personne n'a rien à dire, le silence est aussi le bienvenu. Dans le cadre du cercle, il y a le temps qui est important. On sait qu'on a 2 heures, ou 3 heures, ou 1h30, comme on veut, mais on a un temps imparti. Et dans le principe d'équité, on essaye que le temps de parole soit égal. Donc un des jobs du facilitateur, ça peut être de dire... on a 7 minutes de parole chacun, ou 4 minutes, ou 10, mais en fonction du nombre. Et si la personne qui a le bâton n'a rien à dire, elle peut garder son bâton pendant les 7 minutes, et finalement, au bout de 7 minutes, en général, il y a quelque chose qui sort quand même. Et si quelqu'un est très bavard, au contraire, Au bout des 7 minutes, on lui dit « ton temps est écoulé ». Et ça permet d'aller vraiment à l'essentiel. Parce que si je suis bavard, ok, il faut que je me dépêche, parce que sinon, j'aurais pas tout dit ce que j'ai à dire. Je vais au cœur, quoi. Et j'arrête les fioritures et tous les mots qui servent à rien, direct. Voilà, il y a ça qui est gros, je le pose, et ça, c'est fait, quoi.
C'est pas un peu frustrant d'avoir que, en fait, finalement, que de parler? Parce que c'est pas, finalement, c'est pas si usuel, je dirais, dans notre façon de fonctionner, je trouve. C'est juste de parler, d'être écouté et de pas avoir de retour. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Enfin, on sent qu'on a été écouté, j'imagine. Mais c'est quoi sur quoi on pourrait expliquer le bienfait de cette méthode d'être juste dans le je parle? Donc, quelque part, j'exprime quelque chose qui est en moi et qui a besoin de sortir, sans forcément avoir de retour. C'est ça, en fait.
Je te raconte mon fils le week-end passé, quoi. Grosse charge émotionnelle autour du travail, des trucs qui ne fonctionnaient pas comme il voulait. Il se met grave la pression, il est jeune. Hein. Il a bossé tout le week-end, là, il était chez moi. Et puis, à la fin du week-end, il craque, quoi. Et il me dit, papa, j'en ai marre, putain, j'y arrive pas, les clients, ça va pas. Et c'est tout, je l'ai juste pris dans mes bras. Et il me dit, putain, ça fait du bien de le dire, quoi. Dire les choses à haute voix, ça fait du bien. Parce que les ruminations mentales, en silence, on se les garde pour soi, quoi. Et puis d'un seul coup, dans le cercle, on le dit. Et tout le monde l'entend. Et tout le monde écoute. Parce que c'est aussi ça le truc du cercle, c'est que les gens écoutent. Vraiment. Et c'est simplement ponctué par un merci à la fin de la parole. Mais ouais, il y a quand même 5, 6, 10 paires d'oreilles qui sont là, qui me regardent exactement comme tu me regardes maintenant. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout. J'existe avec ma merde. Les gens ont entendu. Je suis plus tout seul. C'est le cercle traditionnel, quoi. Et le miroitement que j'utilise, c'est un petit retour qui, en plus de libérer ma parole, me renvoie quelque chose que je suis. Je te disais au début que j'ai de la peine à dire qui je suis. Eh ben, quand je raconte ma vie, les gens, des fois, ils ouvrent des grands yeux. Ah ouais, t'as fait ça, incroyable. Je fais de l'escalade, des sports de montagne, etc. C'est pas forcément très commun. Ah ouais, mais putain, tu fais ça, toi. Bah, ça me paraît, moi, vachement simple. Mais en fait, ouais, je me dis, ah ouais, j'ai quand même cette force-là, quoi. Je le savais pas. C'est remarquable pour d'autres gens. Et ça me fait du bien.
Peut-être que les cercles servent à ça aussi, peut-être. C'est à travailler son écoute, avoir une espèce d'écoute active, c'est ça?
Les deux configurations, avec ou sans réaction sur la parole qui est déposée, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien. Et oui, sur la façon d'écouter, le cercle, c'est aussi une école. En général, on écoute pour répondre. Et en cercle, c'est pas ça qu'on essaye de faire. On essaye juste d'écouter avec son ventre. Qu'est-ce que ça me fait comme émotion, ce qui vient d'être déposé? Et alors, cette émotion, je peux la renvoyer avec le miroitement, en utilisant le miroitement, ou pas. Mais n'empêche que j'écoute mon ventre. Je ressens de l'admiration, de la colère, de la tristesse, de la joie. Ok, ça m'appartient. Et en écoutant avec le ventre, eh ben, je progresse aussi en connaissance de moi-même, juste en écoutant. Et puis cette écoute active, eh ben, elle est aussi bénéfique pour la personne qui vient de déposer. Parce que j'ai vraiment écouté ce qu'elle a ressenti, elle. J'ai pas essayé de répondre quoi que ce soit. Son histoire, sa parole, ça lui appartient. Je contredis rien du tout. Je rajoute rien du tout. Je conseille rien du tout. Juste, je vis avec mon émotion, quoi. Et ça, c'est un échange qui se ressent vraiment fort, en fait, en cercle.
Il n'y a pas cette envie, parce que moi, je suis quelqu'un de curieux, de poser des questions, finalement, sur quelqu'un qui dépose quelque chose, et de se dire, bah oui, mais comme là on pourrait faire en ce moment en fait, tu me livres quelque chose et ça me questionne, parce que forcément ça passe à travers mon émotion aussi, et du coup y a des questions qui surgissent, et ça du coup on ne le fait pas, à moins qu'on fasse à bâton rompu.
C'est exactement ça, le cercle c'est pas le lieu des questions, un temps pour chaque chose, et dans le temps d'après cercle, quand on boit la tisane, on mange un gâteau, etc., oui, là, les questions arrivent, c'est normal. Mais quand même, les sujets du cercle, on les laisse dans le cercle. Alors évidemment, on est des humains, on a nos activités, et on est en cercle, avec les gars du cercle, donc on a des thèmes communs, quoi. Et là, les questions sont les bienvenues, évidemment, mais pendant le cercle, pas de questions. Quoi.
Est-ce qu'il y a des sujets qu'on pourrait dire tabous ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça où on sent que ça intervient, enfin voilà, où ça passe pas, ou enfin je sais pas, de ton expérience en tout cas, de ce que tu as pu constater ?
Ça dépend des gens. C'était aussi un des sujets hier soir avec Camille Sfez. J'avais l'idée, moi, au début, que pour entrer vraiment dans la parole libre, ouverte, il fallait vraiment se connaître. Créer un cercle fermé, avec toujours les mêmes gars, et qu'à force de bien se connaître, on va arriver à se livrer. C'était une croyance, et hier soir, on en a parlé, et clairement, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont vraiment un truc... lourd à déposer, et ils arrivent sur un cercle, ils déposent leur truc, et on les revoit plus. Et eux, ça leur a fait un max de bien, parce qu'ils ont enfin dit ce qu'ils avaient à dire, quoi. Donc la question du tabou, c'est chacun le sien, quoi. Moi, je sais que la parole avec le cœur ouvert, il n'y a que ça qui me motive vraiment, quoi. Je pense que j'ai beaucoup moins de retenue de parler de mon monde émotionnel que d'autres gens. Mais chacun est comme il est, quoi. Je peux pas dire qu'il y a des sujets tabous.
Donc, est-ce que tu as eu des expériences avec des personnes qui ont eu un mauvais ressenti, par rapport à un cercle, en disant non, moi ça me parle pas, enfin je sais pas.
J'ai fait quand même pas mal de cercles ouverts avec des gars que j'ai jamais revus, donc je sais pas ce qu'ils en ont pensé. J'ai pas de retour. Il y a des gars qui n'ont pas continué, qui n'ont pas eu envie de renouveler l'expérience. Mais quand même, à la fin de chaque cercle... En fait, un cercle, ça s'organise autour de 3 temps. Il y a une météo de début, comment ça va aujourd'hui dans mon cœur, quoi. Après, on dépose la parole. On fait les tours de parole. Et puis, à la fin, il y a une météo de fin. Et ce tour-là de météo de fin, c'est à chaque fois, putain, ça va bien, quoi. Je suis arrivé, j'étais stressé, mais non, ça va bien, quoi. À tous les coups, c'est ça, quoi. Et même les mecs qui ont été moins emballés, il y a toujours quelque chose de positif à dire à la fin, quoi.
Et finalement, pourquoi tu penses que ça... Dès que du coup, les gens ne reviennent pas ?
Globalement, les mecs, quand même, on n'est pas bien habitués à parler avec le cœur. Et donc, une expérience comme ça, ça peut secouer un peu, quoi. Et puis parfois... Je suis paysagiste, donc je vais prendre une métaphore agricole. On plante une graine, mais elle met plusieurs années à germer, quoi. Un jour, par hasard, on essaye un cercle. On ne sait pas pourquoi, parce que ça s'est présenté, quoi. Tiens, j'avais rien à faire ce dimanche-là. Et puis plusieurs années, il y a un truc qui arrive dans la vie. Et les cercles, quand même, c'était bien. Là, j'en ai besoin, là. Et la graine, elle germe, quoi. Donc, voilà pourquoi certains ne reviennent pas, quoi. Ils reviendront après ou pas, d'ailleurs.
Alors, il y a quand même un truc qui m'épate, c'est quand tu dis les hommes, on n'est pas très bien habitués à parler avec notre cœur. Et je trouve ça un peu... c'est un constat assez terrible, je trouve. Après, il faudrait que je rencontre des femmes qui sont en cercle pour voir s'il y a vraiment une différence notable à ce sujet, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
En tout cas, mon ressenti... c'est que j'ai pas d'espace où ma parole du cœur est accueillie. C'est tellement rare. Tout récemment, en parapente, j'ai discuté avec un gars à l'athéro, je le connaissais assez peu, Et on est vraiment allé très rapidement sur le sujet émotionnel. Et putain, ça m'a fait un bien fou, quoi. Parce que d'habitude, à l'atterrissage du parapente, on raconte combien de temps on est resté en vol, le nombre de bulles thermiques qu'on a enroulées, on fait ça en termes de performance, de chiffres. Mais l'émotionnel, que dalle, quoi.
Donc ça te semble être quand même quelque chose d'assez masculin, ça, cette espèce de difficulté, vraiment, de discuter de l'émotionnel ou d'être plutôt dans la performance ou peut-être une compétitivité, c'est ça?
Ouais, c'est complètement un lieu commun de dire que les hommes sont des compétiteurs, quoi. Mais en tout cas, ça correspond à mon ressenti. Dans mon club de vélo, dans mon club de parapente, dans mon club d'escalade, on parle de performance et on raconte les sorties avec des chiffres. Et évidemment, qu'en vélo, les chiffres sont importants aussi, quoi. Quand on a fait 200 bornes, c'est pas pareil que quand on en a fait 20, quoi. Alors que le côté émotionnel, eh ben, moi, je le trouve avec les femmes. Dans tous les cercles, les groupes féminins que j'ai croisés, on en arrive rapidement au sujet de l'émotion.
Je dirais que ça valide un petit peu ce que tu disais, quoi, que les hommes, il y avait quand même plus de difficultés.
C'est mon vécu,
Oui, voilà.
c'est ça, quoi. Si tu veux, j'étais vachement jeune, je venais de me marier, j'ai lu le livre Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et je me reconnaissais dans les Vénus à toutes les pages, quoi. C'est pas possible, je suis pas comme tout le monde, quoi. Et pourtant, ce côté sportif compétiteur, je l'ai aussi. Bien sûr que je suis fier de mes performances en vélo, quoi. Elles sont pas extraordinaires, mais j'en suis fier quand même. Donc voilà, mon vécu, c'est que l'accès à l'émotionnel, je le trouve plus avec des copines qu'avec des copains.
Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter qui te semble important à partager sur ce sujet?
Les cercles de parole, c'est vraiment une énergie qui me porte vraiment fort en ce moment, qui produit des effets à tout niveau dans ma vie. Au quotidien, je communique comme en cercle. Au quotidien, j'utilise le miroitement et ça produit des effets complètement magiques dans la relation humaine. Simplement par l'habitude que j'ai de parler de mon ressenti. La formulation de mes phrases, elle est primordiale. Et ça adoucit toute la vie, quoi. Je crois que c'est ça mon mot de la fin. Les habitudes de cercle de parole, ça adoucit toute la vie. Et tiens, d'ailleurs, un des petits sujets dont on a parlé avant l'émission, c'est les cercles mixtes. Pour moi, j'imagine le cercle d'hommes comme une antichambre du cercle mixte. Parce que en apprenant à parler de soi, à parler avec son cœur, eh ben, le cercle mixte peut amener à une réconciliation.
Tu me dis réconciliation, c'est comme s'il y avait une rupture.
Oui, je ressens la rupture quand je discute avec des gens qui s'annoncent féministes. Je sens souvent de la colère et je comprends des gens qui se trouvent pas respectés avec leur spécificité. Et pareil pour nous les gars, quoi. Moi, je disais que je me reconnais souvent chez les Vénus. Et ça se passe pas en cercle.
Non.
Le
Parce que c'est un jugement.
ouais, c'est ça. Ouais. Je peux raconter mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait à ce sujet-là, mais simplement, chacun parle de soi et ça se passe bien. Et on se comprend. Et on arrive à se comprendre et du coup à modifier nos façons d'agir ensemble avec la volonté que chacun soit respecté. Dans chaque jardin, la même variété d'arbres, elles se comportent différemment. Donc en fait, pour moi, le vivant, c'est que des cas particuliers. Et faire une généralité, c'est être dans l'erreur constamment, en fait. C'est que le vrai changement, il vient de la base. Je suis reparti sur le sujet politique. C'est-à-dire que le changement qui vient du haut, de la politique, c'est des contraintes que tout le monde va subir. Elles seront adaptées dans beaucoup de cas, et dans beaucoup d'autres cas, ça sera inadapté. Le vrai changement, pour moi, il vient de la base. Parce que moi, je change, parce que moi, je me mets à parler d'une manière apaisante. Je vais donner envie à des gens autour de moi de parler de manière apaisante. Et finalement, on sera tout un groupe de gens qui vont être apaisés et qui vont amener de la paix dans la société. Ça, c'est mon rêve. Mon rêve.
Eh bien, tu vois, ça, je trouve que c'est un joli mot de la fin.
Je te le valide.
Allez, merci Philippe. Alors, après l'interview avec Pierre-Yves Barre de Talencieux, donc facilitateur de Cercle d'Hommes, je suis avec Stéphane Agrin, qui est magnétiseur HRP et qui participe aussi à des Cercles d'Hommes. Donc, il va nous expliquer tout ça. Allez, bonjour Stéphane.
Bonjour. Alors, je participe à un Cercle d'Hommes qui est régulier, en fait, toujours avec les mêmes hommes. Depuis 8 ans, ce cercle existe. Et alors, il a évolué, ce n'est pas les mêmes personnes depuis 8 ans, mais il y a toujours un noyau de plus anciens. Et moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais partie du cercle. Donc, nous, on fonctionne, on se voit à peu près une fois par mois, donc très régulièrement, et on a le principe du cercle d'hommes, c'est-à-dire que chacun parle à son tour avec un bâton de parole pour qu'on ne se coupe pas la parole. Et donc on dépose nos problématiques du moment et ce qu'on a besoin de déposer à ce moment-là, en étant bien sûr surtout dans l'émotionnel, pas que dans le côté pratique et matériel. Il y a peut-être un besoin maintenant, au bout d'un certain temps, là, depuis le temps que ça existe, de modifier un peu ça et de prendre un temps de parole après cette déposition pour pouvoir se poser un petit peu des questions et puis essayer d'aller un petit peu plus loin sur la déposition qui a été faite et pour, comme on peut dire, tirer un peu le fil de la problématique qui a été levée et puis d'essayer d'aller en faire quelque chose de ce qui a été déposé.
Parce que tu as senti à un moment donné que vous étiez sur une forme de frustration ou peut-être ça n'allait pas jusqu'au bout ?
Exactement, oui. Surtout les plus anciens, là, ils commencent un petit peu à se lasser, à avoir un peu tendance à se répéter un petit peu. Et du coup, on voit que les problématiques qui sont soulevées, souvent, elles ne sont pas réglées, quoi, finalement, puisque personne... on y met le doigt dessus, mais on les travaille pas, quoi, finalement.
On précise, vous êtes... pratiquement que des thérapeutes ?
Alors, on est une grosse majorité de thérapeutes, oui, on est 8. Et sur les 8, si je ne me trompe pas, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas thérapeute. Ouais. Donc, on a chacun un petit peu des thérapies différentes, mais bon, on est tous un petit peu dans le magnétisme, des choses un peu différentes, mais tous un peu dans le soin, oui. Et donc, du coup, si on peut profiter de ce cercle-là pour s'entraider et puis pour aller chercher un petit peu plus loin et puis pour éventuellement régler certains problèmes, ça serait l'idéal. Ouais.
Et toi, ça a été un peu ta démarche première d'intégrer un cercle d'hommes ?
Exactement, oui. Moi, ça m'a vraiment permis de déposer déjà en toute confiance avec d'autres hommes et sans aucune crainte. Et puis, ça m'a permis d'évoluer beaucoup, justement, dans le sens où j'ai pu déposer mes peurs, j'ai pu déposer mes besoins un petit peu, mes difficultés, et entre autres face aux femmes, justement. Et du coup, ça m'a permis le fait d'être qu'entre hommes, ça m'a vraiment aidé à être plus honnête et plus et aller plus loin dans ce que j'avais à dire, quoi.
Peut-être aussi dans la compréhension de quoi, de toi par rapport aux femmes, ton rapport avec les femmes, dans ta position du masculin, ou enfin, je sais pas.
Oui, ma position avec face aux femmes, oui, où j'avais une certaine peur, du coup, face à vis-à-vis de ce que j'avais vécu avant, et du coup, le fait de pouvoir en parler à d'autres hommes. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à avoir des difficultés à communiquer avec les femmes, mais aussi avec les hommes d'ailleurs. Mais ça m'a vraiment aidé à me libérer de certains freins et simplement le fait de voir que j'étais pas le seul à avoir ces peurs-là, et que ça, il y avait d'autres hommes qui avaient cette difficulté-là aussi.
Est-ce que éventuellement un cercle mixte, ça te paraîtrait cohérent ou pas du tout ?
Ça me paraît cohérent, mais moi j'ai eu besoin de passer par un cercle vraiment que d'hommes au départ, parce que si ça avait été un cercle mixte, j'aurais pas été aussi honnête, aussi franc, et je pense que je ne me serais pas livré autant. Là, le fait d'être qu'avec des hommes, ça m'a vraiment libéré d'une certaine séduction. Il n'y a pas de séduction entre hommes, et du coup, j'ai pas eu besoin de tricher et de mentir en fait, ce que j'aurais pu faire s'il y avait eu des femmes, effectivement. Mais maintenant, je pense qu'après le nombre d'années que j'ai fait ce cercle d'hommes, je pense que ça peut être intéressant pour moi de passer à un cercle mixte, parce que justement ça permettrait aussi d'échanger sur nos difficultés en tant qu'homme, en tant que femme, et puis de mieux se comprendre en fait sur chacun, sur nos peurs qu'on peut avoir au sexe opposé, et puis fonctionner différemment pour qu'on puisse s'entendre et vivre mieux entre hommes et femmes.
Est-ce que c'est pas ça aussi qui du coup vous fatigue entre guillemets? C'est d'être toujours entre hommes, et pour redonner peut-être un sens différent, ça serait d'inclure les femmes, peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça.
On en a parlé dans notre cercle, on a plutôt envie de rester entre hommes dans notre cercle, on a la possibilité et l'envie de chacun plutôt d'aller chacun de notre côté dans d'autres cercles. C'est comme si on n'a pas envie d'arriver en masse face à un autre groupe de femmes en masse. C'est vraiment une envie de partager, d'être dans un cercle qui n'est pas déjà créé entre hommes ou entre femmes, quoi. Mm-hmm. Pour éviter, c'est toujours, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours difficile de rentrer dans un groupe seul face à beaucoup d'autres, dans un groupe déjà existant, et surtout si c'est en plus de sexe opposé. Alors que si on rentre directement dans un groupe mixte, ça me paraît plus simple.
Donc pour toi, par exemple, le fait d'intégrer un cercle d'hommes, c'était bien si c'était toujours les mêmes pendant un certain temps pour te sentir en confiance, ou ça, parce que ça peut être bien aussi des fois peut-être de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a une liberté de parole, peut-être plus, ou je me trompe?
Alors pour moi, ça a été l'inverse, effectivement. J'ai fait les deux. J'ai fait des cercles où ça bougeait beaucoup, où ça changeait à chaque cercle. C'était des hommes différents. Et moi, j'ai eu besoin justement d'être dans un cercle où on était toujours les mêmes, justement pour avoir plus de confiance. Moi, j'ai besoin de connaître les gens, j'ai besoin d'un temps d'adaptation, je pense aussi. Et le fait de connaître, pour moi, c'est beaucoup plus facile. J'ai pu me livrer beaucoup plus facilement. Le fait que, quand j'ai fait des cercles où ça changeait à chaque fois, j'avais l'impression que les hommes n'étaient pas aussi engagés, qu'ils venaient faire un one shot, comme on dit, faire juste pour un cercle, pour essayer, pour tester. Et puis qu'après, c'était pas forcément reconduit. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance dans ces cas-là. Ouais. J'avais vraiment besoin que ce soit un cercle régulier, avec un peu toujours les mêmes personnes, et que ça soit quelque chose où chacun s'investisse pour que le cercle dure.
D'accord. Parce que, est-ce que tu penses que le fait finalement de juste le dire, ça peut faire du bien sur le moment, mais finalement ça ne s'intègre pas forcément dans une démarche personnelle ?
Alors, pour moi, par rapport à ma propre expérience, le fait de dire les choses, ça m'aide à en prendre conscience. Mais souvent, ça ne règle pas le problème, en fait. Je vois le problème, j'y tourne autour, mais ça ne le règle pas vraiment. Dans d'autres circonstances, quand j'ai eu cette difficulté-là, à tourner autour d'un problème, j'ai eu besoin d'aller voir un autre thérapeute après pour vraiment aller comprendre pourquoi ce problème, j'y tournais autour et que je n'arrivais pas à le régler. Et là, alors le cercle, ce n'est pas forcément un cercle thérapeutique, mais malgré tout, si on peut un petit peu s'aider, on est là aussi, on se fait confiance, et si on peut aller comprendre pourquoi il y a une difficulté qui n'est pas réglée, pourquoi pas, quoi.
Et tu m'as parlé d'un retour de qualité positif. C'est quoi ça?
Ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté une fois. Je crois qu'on appelle ça le miroitement. C'est-à-dire que pour vraiment voilà, je pense s'aider à prendre confiance en nous aussi. Le fait de se dire à la fin du cercle, ben, chacun se dit une qualité qu'on a pu percevoir chez l'autre, c'est très surprenant, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai eu ce retour-là, j'ai été surpris par les mots qui ont été dits sur moi, j'ai vraiment été surpris, mais en même temps, voilà, ça m'a vraiment aidé, moi qui ai tendance à manquer un peu de confiance en moi, ça m'a vraiment aidé, et ça m'a vraiment permis de me rendre compte, en fait, de ce que je dégageais, et contrairement à ce que j'imagine que je dégage.
On en est tous là. Et juste une dernière question, parce que c'est vrai que le temps est assez court, c'est est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne touchez jamais, pas tabou, mais sur lesquels tu sens que ça ne passe pas ou...
Ouais, c'est vrai que c'est une question sur lesquelles on s'est posé, on en a parlé justement au dernier cercle. On parle très rarement de sexe, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'entre hommes, on n'a parlé que de ça, et alors que non, c'est quelque chose dont on ne parle pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas dans cette comparaison, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi.
Toi, par exemple, tu n'as jamais eu envie d'en parler?
J'ai eu envie, si, mais c'est vrai que j'ose pas, en fait, je pense. J'ose pas, comme les autres n'en parlent pas aussi, c'est plus difficile. Et puis, j'ai un peu peur aussi de ce côté masculin, ou peut-être encore de jugement, ou de je sais pas, d'être dans la comparaison, ou je sais pas. Il y a vraiment de la compétition, oui, peut-être, oui.
C'est vrai?
Ouais. Ah ouais. Je sais pas, c'est vraiment un truc qui est difficile pour moi. Je sais pas si c'est pareil pour tous les hommes, mais en tout cas pour moi c'est difficile. Ouais. J'ai tellement eu de conditionnement vis-à-vis de ça, qu'il fallait être le meilleur, et pas que dans la sexualité d'ailleurs, mais en tant qu'homme en tout cas. Et du coup, ouais, c'est vraiment un sujet qui est, je pense, difficile à aborder pour nous finalement.
Et finalement, le fait d'être dans un cercle d'hommes, ce sujet justement de compétition, ce qu'on attend d'un homme, la pression sur les hommes, en fait, de ce qu'ils doivent être, etc. Est-ce que ça t'a allégé finalement de voir d'autres hommes qui finalement ne sont pas du tout là-dedans? Enfin, je ne sais pas.
Oui, bien sûr que ça m'a allégé. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement, les autres hommes ont un peu cette même peur-là. Et très souvent, on a tous entendu, soit un homme, soit fort, ne pleure pas. Et je vois que finalement, tous les hommes l'ont un peu entendu ça. Et tous les hommes ont aussi entendu qu'il fallait être le meilleur et qu'il fallait faire le maximum pour être vu, quoi. Et donc, du coup... le fait d'en parler avec d'autres, et ça, moi, ça m'a permis de me libérer un peu de ça. Ouais. Et puis, me libérer du regard des autres, en général.
Bon, merci Stéphane.
Merci beaucoup à vous.
Allez, on pourrait faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain. Thank you.